Docteur Angela Genge, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Vous êtes depuis plusieurs années directrice de la clinique et du programme de recherche en SLA de l'Université McGill. SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, n'est-ce pas?
Oui,
Exact.
exactement.
Un nom qui est peut-être moins facile à retenir, là, mais souvent on parle de SLA. Est-ce que c'est la même chose que la maladie Lou Gehrig? Parce qu'il était question de ça aussi quand j'étais plus jeune.
Oui, c'est trois noms pour cette maladie-là. C'est SLA, c'est Lou Gehrig et d'enfant, c'est maladie de Charcot.
Ah, d'accord. Alors tout ça, c'est la même maladie. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir que depuis quelques années, il semble y avoir une augmentation des cas.
Ça, c'est une très bonne question, là. Nous pensons que le nombre de patients ça augmente. C'est possible, c'est vraiment une augmentation. C'est possible aussi, c'est parce que toute l'autre maladie, nous avons un meilleur traitement. L'incidence d'un SLA augmente parce que personne fait pas le maladie critique de cancer ou le cœur.
D'accord, oui.
La dernière possibilité, nous n'avons pas absolument clair, et c'est un diagnostic qui est plusieurs informations dans l'Internet et quelque chose.
Oui, so, oui.
Le diagnostic, c'est plus fréquent. Mais je pense que nous avons graduellement une augmentation.
D'accord.
Nous, probablement pas une augmentation de le type qui est familial.
Ah oui, parce que ça, c'est oui, c'est parce qu'on pourrait penser à ça comme étant une explication possible. Alors, ça peut être parce que le diagnostic est mieux posé à l'avance, mais net-net, la fréquence des cas est passée de 1,5 à 2 personnes sur 100 000 il y a 30 ans à 5 sur 100 000. Alors, ça l'a plus que doublé. Donc, ça pourrait avoir d'autres causes que celle-là.
Oui. Oui, so, nous pensons le numéro, c'est plus de par 1 000, more than one in 100,000.
Oui.
Nous pensons, c'est plus que 5.
D'accord.
Et aussi, l'autre chose qui est très importante là, c'est la fréquence, l'incidence de cette maladie, c'est la même que sclérose en plaques.
OK.
La raison nous avons beaucoup moins de personnes avec la maladie, c'est parce que la maladie, c'est fétal. Hein?
So, oui.
Quand nous avons plusieurs traitements qui stabilisent la maladie, c'est plus de personnes avec la maladie parce
D'accord.
que They live longer.
Oui, il y a ça. Est-ce que, comme c'est des maladies qui se déclarent relativement plus tard dans la vie de quelqu'un, le fait que la population vieillit, peut-être ça y est pour quelque chose aussi. Et il y a aussi un lien, je pense, avec les traumatismes crâniens.
Oui. C'est une très bonne chose. Et nous pensons un trigger de cette maladie dans la personne avec aucun problème dans la famille et trauma de la tête ou de la cou. Nous connaissons le joueur de football,
oui.
Le football en Nord-Amérique et le football dans le monde, le soccer,
oui.
C'est une incidence plus que normale.
D'accord.
Et c'est très clair dans ces deux populations. Dans l'Italie, c'est une grosse étude qui est confirmative.
Oh.
Et dans Nord-Amérique, c'est clair dans le football, dans la NFL.
Et on pourrait penser aussi à d'autres sports où il peut y avoir des traumatismes crâniens ou des commotions, comme le hockey, par exemple, parce que là aussi, il y a des commotions qui surviennent.
Le hockey, c'est un peu différent. C'est pas beaucoup d'augmentation, mais c'est une augmentation.
D'accord.
So, pour quelques raisons, c'est plusieurs dans le football, les deux types de football. Et le troisième groupe qui fait une augmentation, c'est les personnes en militaire.
Oh, OK.
So, c'est absolument clair. Si vous avez un membre de le militaire dans les États-Unis et vous êtes un actif, pas un desk job, vous avez une augmentation de votre risque de SLA.
Oh, OK. Oui, parce que ça, à ce moment-là, on peut penser, il y a des traumatismes crâniens ou d'autres formes de traumatismes du système nerveux qui peuvent... Oui. Intervenir. Est-ce qu'il y a des agents extérieurs comme des toxines ou des produits industriels auxquels quelqu'un peut être soumis? On a fait un lien, entre autres, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer avec certains produits dans les fermes, des produits agricoles. Est-ce que c'est quelque chose qui se reproduit aussi pour le SLA?
So, c'est une autre bonne question. Nous pensons que c'est la période qui c'est beaucoup d'organophosphates.
D'accord.
Les chimio dans la horticulture.
Oh, OK. Alors, ça peut être à ce moment-là les fertilisants ou les choses comme celles-là.
Oui, mais c'est très rare. C'est possible pour faire une confirmation de ça. Mm-hmm. Mais particulièrement quand nous utilisons beaucoup de chimiotoxiques dans la horticulture,
oui.
Nous pensons que c'est une connexion.
D'accord.
C'est pas comme le traumatisme. Nous pensons que le traumatisme, c'est plus important, mais c'est possible aussi le chimio.
J'ai vu quelque chose qui, moi, me semblait plus difficile à croire, mais enfin, tout est possible. Il était question de l'augmentation des algues bleues dans les lacs. Est-ce que ça a un lien?
C'est une hypothesis.
Oui, OK. Une hypothèse.
Hypothèse. Connecté avec le New Hampshire et Vermont, mais aussi dans le Eastern Townships.
D'accord.
Mais c'est pas confirmatif encore.
Okay.
C'est une étude longue durée qui commence, je pense, 5 ans avant.
D'accord.
Ça continue, mais c'est pas fini.
OK. Donc, on n'a pas encore des conclusions qui sont claires.
Oui. Yeah.
On va parler des bonnes nouvelles maintenant. Il y a des médicaments maintenant qui permettent de ralentir la maladie.
Yes. So, nous avons quelque chose qui est important. C'est beaucoup de bonnes nouvelles, mais le premier, c'est que nous avons maintenant 3 médicaments qui sont approuvés, qui diminuent la vitesse, ça c'est certainement. Le 4 médicament, c'est un médicament juste pour un type de SLA.
Okay.
Nous sommes dit SOD1, SOD1 SLA. Ça, cet médicament, nous sommes dit Tofersen. C'est un grand bénéfice. C'est
d'accord.
Avec la progression de la maladie, dans la façon avec le type familial de SOD1.
Ah, alors ça, c'est les gens qui ont qui sont atteints du SLA, comme vous dites, d'un type familial, donc héréditaire.
Oui, exactement.
Ce médicament-là est particulièrement efficace.
Yes.
Est-ce qu'il y a beaucoup pour tous les cas de SLA, la partie héréditaire, il y a combien de cas qu'on peut retracer comme étant héréditaire?
So, entre 10 et 15%
okay.
pourcentage,
oui.
Mais pour SOD1, c'est 3.
OK, d'accord. Mais c'est encore une minorité. Si, parce que maintenant, c'est important aussi de pouvoir... diagnostiquer le plus tôt possible les premiers symptômes. Comment quelqu'un Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer maintenant quelqu'un qui a le SLA avant que ça soit trop grave? Est-ce qu'il y a des symptômes ou il y a des signes qui sont des choses qu'il faut connaître, pour lesquelles on doit consulter?
So the issue avec SLA est le premier symptôme, nous pensons c'est mineur.
OK.
Parce que c'est un peu de faiblesse ou un peu de twitching ou un petit changement de la voix.
OK.
Avec aucun symptôme systémique. So la personne ne sent pas mal.
D'accord. Ils ne vont pas perdre l'équilibre, ils ne vont pas tomber par terre, ils ne vont pas... D'accord.
Mais, si vous avez un peu de faiblesse et aucune douleur ou un changement de le muscle et aucune douleur, c'est plus fréquent. Et
d'accord.
C'est important, la personne visite avec le docteur de famille, mais c'est nécessairement de visite avec un neurologue pour faire le diagnostic.
D'accord.
Et nous travaillons très, très, je suis très agressif à donner le, dire à le docteur de famille, à référer le patient vite.
Okay.
Si vous pensez que c'est possible, c'est un SLA, c'est urgent pour la personne envoyer la consultation. Parce que nous voyons cette patiente-là moins d'un mois après nous avons la consultation.
D'accord.
C'est très important parce que tous les nouveaux médicaments dans le système et les études cliniques, si vous êtes moins faible,
oui,
vous avez meilleure réponse.
Oui, mais oui,
donc,
ça tout à fait. Là. Oui, exact. Yeah. Les médicaments sont efficaces si ils sont pris tôt dans le développement de la maladie. J'ai vu quelque part qu'on pouvait peut-être même envisager éventuellement de pouvoir détecter la SLA par des prises de sang.
Oui, nous travaillons de ça maintenant. Et nous avons une prise de sang qui aide, mais ce n'est pas un examen diagnostique encore.
Okay.
Mais c'est beaucoup de travail dans ça, hein, parce que ça ne change pas complètement. Si nous avons avec une prise de sang, vous avez la SLA ou non, toute la personne, le diagnostic, c'est plus vite.
D'accord. Là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si on commence à avoir des faiblesses, un changement dans la voix, un petit peu de spasme, c'est important d'aller voir notre médecin de famille et d'insister un peu pour avoir une référence auprès d'une neurologue, parce que s'il s'agit d'SLA, ça sera important d'intervenir vite, surtout si on a un passé de traumatisme crânien ou de service militaire actif et des choses comme cela. Mais docteur Genghi, merci beaucoup. Docteur Genghi, merci beaucoup.
Mon plaisir.
C'est très important d'en parler à tout le public et de voir est-ce qu'on puisse intervenir. Merci beaucoup d'avoir été là.
Et bonne fête.
Merci, vous aussi.